Nous avons tous vu des personnes qui mettent leur propre vie en danger pour sauver un pauvre animal de l'eau glacée après qu'il soit tombé à travers la glace d'un lac, d'un étang ou autre. Il peut s'agir d'un orignal ou, le plus souvent, d'un cerf et parfois du chien de quelqu'un. Et lorsque cela se produit, les gens se précipitent pour les secourir et mettent souvent leur vie en danger pour le faire. J'ai récemment visionné le sauvetage d'un Golden Retriever, je crois que c'était au Portugal ou ailleurs dans le monde. La ville était inondée par plusieurs mètres d'eau et ce pauvre Golden Retriever se tenait sur ses pattes arrière, près d'un bâtiment. Je suppose qu'il s'agissait d'une sorte de grille métallique contre le bâtiment, et il avait les pattes en l'air s'accrochant à la vie. Ses pattes arrière étaient tendues au maximum, et il avait de l'eau jusqu'au cou. Un bateau est arrivé, il secourait des gens et des animaux. Ils se sont approchés de lui et ils ont commencé à lui parler doucement, à le caresser sur la tête. Et finalement, le Golden Retriever a retiré ses pattes de la grille et les a posées sur le bateau. C'était une sorte de signe de dire « Hey, j'aimerais monter à bord ». Et ils l'ont embarqué rapidement à bord et il s'est secoué comme les chiens savent le faire, en se tortillant, en se retournant ou en se secouant. Sa queue s'est mise à remuer. Il était heureux. Il était dans l'eau depuis je ne sais combien de temps. De tels actes de bonté nous réchauffent tous le cœur. Nous les applaudissons tous lorsque quelqu'un est sauvé, qu'il s'agisse d'un cerf, d'un orignal ou d'un chien, alors qu'il se retrouve dans des circonstances terribles. Je me souviens d'une fois où l'on essayait de sortir un éléphant d'un fossé de drainage. Ce n'était pas une mince affaire de faire sortir un éléphant du fossé alors qu'il ne pouvait pas en sortir lui-même. Mais l'humanité est ainsi faite. Nous mettons souvent notre propre vie en danger, ou nous nous donnons beaucoup de mal pour essayer de sauver un pauvre animal sans défense. La question est donc de savoir pourquoi ces mêmes êtres humains, et je ne connais pas toutes les personnes que nous voyons dans ces vidéos, mais je connais la nature humaine et je sais comment sont les gens, mais nous pouvons certainement nous demander pourquoi ces mêmes êtres humains, parfois, ne font-ils pas preuve d'une bonté élémentaire envers leurs semblables? Nous nous donnons beaucoup de mal pour sauver des animaux, quitte à mettre même notre vie en danger, mais dans la vie de tous les jours, comment se fait-il que nous ayons tant de difficultés à faire preuve de bonté élémentaire envers les personnes que nous aimons le plus? Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais parler de notre besoin de nous traiter les uns les autres avec courtoisie et bonté. C'est le titre de ce sermon, courtoisie et bonté. Courtoisie et bonté. Le mode de vie de Dieu est celui de la sollicitude, de l'attention portée à l'autre, et cela inclut de démontrer les caractéristiques de la courtoisie et de la bonté. Cela fait partie de la sollicitude envers les autres. En fait, le fait d'être courtois envers les autres, de manifester de la bonté envers les autres êtres humains, est une grande expression de cette sollicitude. Le caractère de Dieu implique la bonté, remarquons dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, et nous commencerons au verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Avez-vous déjà pensé à la bonté de Dieu à notre égard? Je pense que c'est certainement un mot que j'utilise souvent dans mes prières, remerciant Dieu de sa bonté. juste pour les choses qu'il fait pour nous et qu'il n'aurait pas à faire. Mais il fait preuve de beaucoup de bonté à notre égard. Reportons-nous au livre de Tite. Tite, chapitre 3, et le verset 4. Tite 3, versets 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais, selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et cela continue, mais le point que je veux souligner ici est le suivant, verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ce n'est pas seulement de l'amour, mais c'est par ses actes de bonté. Dieu pourrait, je suppose, nous aimer sans bonté, mais les deux vont de pair. Ils sont tous les deux impliqués, et j'expliquerai un peu la différence plus tard. Mais Dieu fait preuve de beaucoup, beaucoup de bonté au quotidien. C'est le caractère de Dieu. Et si c'est le caractère de Dieu et que nous devons naître dans la famille de Dieu, comme nous l'avons certainement vu à la fête des tabernacles, le royaume de Dieu reviendra sur cette terre pour gouverner et nous aurons notre place dans la famille de Dieu, cette famille régnante. Alors nous devons aussi avoir la caractéristique de la bonté. Cela doit faire partie de notre caractère. Remarquons dans Colossiens 3. Colossiens 3, versets 12 et 13. Il dit au verset 12, « Comme des élus de Dieu, et nous sommes les élus de Dieu, nous sommes ceux qu'il a choisis, qu'il a sélectionnés, qu'il a élus, saints et bien-aimés. Donc, Dieu nous aime, nous sommes séparés, déclarés saints. » Et il dit au verset 12, « Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Au verset 12, nous voyons que nous devons nous revêtir de tendresse, et la chose suivante qu'il mentionne est la bonté. Mais il mentionne aussi l'humilité, parce que toutes ces choses vont ensemble et fonctionnent ensemble. Il est difficile d'être vraiment bon quand on manque d'humilité. Je pense que c'est possible, mais c'est mieux quand on a les deux. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Il est difficile d'être bon avec quelqu'un à qui l'on n'a pas pardonné. Nous voyons donc que cela doit être notre caractère aussi, pas seulement celui de Dieu, mais le nôtre aussi. Reportons-nous à 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Débutons au verset 4. Verset 4 de 2 Corinthiens 6. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Ici, Paul parle du ministère en tant que tel, mais cela s'applique à nous tous. Les caractéristiques qu'il met en évidence ici. Verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Vous savez, lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous subissons un stress quelconque, il est parfois difficile de faire preuve de bonté à l'égard de ceux qui nous entourent. Nous sommes souvent stressés et nous pouvons nous emporter. Nous pouvons faire beaucoup de choses qui ne font pas preuve de bonté ou de courtoisie à l'égard de ceux qui nous entourent. Il dit donc ici par beaucoup de patience. La patience est certainement nécessaire pour la bonté et la courtoisie. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, et encore une fois, ceci est si important, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Donc, par la bonté, Paul disait que c'était une caractéristique que le ministère devait avoir, et comment ils devaient manifester de la bonté envers ceux qui les entouraient. Malgré tout le stress qu'ils subissaient, les longues souffrances qu'ils devaient endurer, la patience qu'ils devaient apprendre et tout le reste, ils exprimaient de la bonté envers ceux qui les entouraient, et ils n'utilisaient pas le stress comme excuse pour ne pas être bons et courtois. Bien sûr, Galates 5 souligne que la bonté est l'un des dons du Saint-Esprit, plus exactement l'un des aspects du fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Parmi le fruit du Saint-Esprit, il y a donc la bonté. Or, par nos paroles, nous faisons preuve de bonté. Comment exprimons-nous la bonté dans nos interactions quotidiennes? Eh bien, nos paroles en font partie. Notez comment Luc 4 décrit Jésus-Christ et la manière dont il s'exprimait en paroles. Nous savons qu'il y a eu des moments où il a réprimandé les gens, des moments où il les a corrigés, et des moments où il s'est mis en colère de manière appropriée contre les gens. Mais d'une manière générale, lorsqu'il parlait, enseignait et tout le reste, il s'exprimait avec des mots pleins de bonté. Luc 4, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Il a donc parlé avec grâce. Il n'utilise pas le mot « bonté » ici, mais cela va dans le même sens. Je pense que vous pouvez le reconnaître lorsqu'il parlait des paroles de grâce. Reportons-nous à Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, versets 12 et 13. La version Osterwald nous dit, verset 12, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres du fou l'engloutissent. Ainsi, si nous faisons preuve de bonté envers quelqu'un d'autre, nous pouvons le faire en parole, ou au contraire, nous pouvons l'engloutir. Et il dit au verset 12, « Mais les lèvres du fou l'engloutissent. » Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Il part donc ici du type de mots que nous utilisons, de leur caractère gracieux, et du fait que nos mots doivent être choisis avec soin. Nous pourrions nous référer à un certain nombre d'écritures à ce sujet, mais un passage de l'Écriture que je trouve absolument magnifique se trouve dans les Proverbes. Et vous y pensez peut-être déjà vous-même. Proverbe 31, verset 26. Il y est question de la femme vertueuse, celle qui est forte de caractère et en action. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue, des instructions de bonté. Une loi de bonté en anglais. Je pense que c'est très important, parce que nous pensons à toutes ces autres choses. J'ai entendu tant de sermons au fil des ans sur le fait qu'elle était une professionnelle de l'immobilier. Eh bien, ce n'est pas du tout ce dont il est question ici, lorsqu'il est question de l'achat et de la vente de biens immobiliers. Il s'agit plutôt de la famille, si vous lisez attentivement, de prendre soin de sa famille et de ce genre de choses. Mais les gens se concentrent sur certaines de ces choses et ne remarquent pas que sur sa langue sont des instructions aimables ou une loi de bonté, en anglais encore une fois. J'ai réfléchi au fait que les hommes et les femmes sont si différents à certains égards, mais que nous sommes similaires à d'autres égards. Les hommes peuvent être gentils, les femmes peuvent être gentilles. Les hommes peuvent être cruels, les femmes peuvent être cruelles. Nous l'exprimons simplement différemment. La cruauté chez un homme peut consister à faire la guerre, à faire des choses terribles de cette manière, ou simplement à se battre en général. Nous pouvons être cruels de cette manière, nous pouvons nous en prendre à quelqu'un. Mais les femmes aussi peuvent être cruelles. Elles peuvent être très méchantes. Se dénigrer les unes les autres, faire des commérages et ce genre de choses. Mais ici, il est dit que sur la langue de cette femme est la loi de la bonté. En d'autres termes, c'est ce qui sort de sa bouche. La loi de la bonté. Et c'est quelque chose que nous devons tous exprimer, que nous soyons hommes ou femmes. Même si nous pouvons exprimer la cruauté différemment ou exprimer la bonté différemment, néanmoins, que nous soyons un homme ou une femme, la loi de la bonté doit être sur nos lèvres. En rapport avec ce que nous disons, comment nous réagissons. Parfois, nous pouvons être très tranchants en tant qu'hommes, et il en va de même pour les femmes. Et ce n'est pas la façon dont Dieu veut que nous soyons, mais quelle belle expression, la loi de la bonté est sur sa langue. En plus des mots que nous utilisons, nos actions témoignent également de notre bonté. Nous en avons quelques exemples dans le livre des Actes au 28e et 27e chapitre. Ce ne sont que deux exemples de bonté. Et je les mentionne non seulement parce qu'ils utilisent le mot « bonté » ou quelque chose de similaire, mais aussi parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur la différence entre la bonté et l'amour total, pourrions-nous dire. Reportons-nous dans Actes 28, verset 2. Paul et ceux qui étaient avec lui firent naufrage, et ils se trouvaient sur l'île de Malte. Le verset 2 nous dit, « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Si vous y réfléchissez bien, ils ont fait preuve d'une grande bonté à l'égard de ces étrangers, comme on le ferait à l'égard d'un animal tombé dans la glace ou autre. Ils ont instinctivement vu des personnes en difficulté et leur ont témoigné de la bonté. Cela ne signifie pas qu'ils les aimaient, bien qu'il s'agisse certainement d'un acte d'amour, mais néanmoins, la bonté est quelque chose que nous faisons simplement parce que nous voyons quelqu'un en difficulté et que nous l'aidons. Et, comme c'est souvent le cas, qu'il s'agisse d'un incendie, d'un accident de la route ou d'une personne blessée d'une autre manière, nous nous donnons beaucoup de mal pour faire preuve de bonté à l'égard de parfaits inconnus, comme l'ont fait ces personnes ici. Reprenons au chapitre précédent, Actes 27, verset 3. Actes 27, verset 3, il dit, « Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. C'était donc avant la situation où ils étaient échoués, et il dit, « Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, avec bonté, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Il a fait preuve de bonté à son égard. Apparemment, il faisait confiance à Paul pour qu'il puisse voir ses amis, mais Paul était en quelque sorte un étranger pour lui, et il n'était pas obligé de faire cela, mais il a fait preuve de bonté à son égard. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un grand acte d'amour, il s'agit simplement de quelque chose qu'il a senti qu'il pouvait faire pour montrer de la bonté à quelqu'un qui était prisonnier à l'époque. » Et cela m'amène à 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Et le verset 7. C'est là où nous avons cette liste de caractéristiques, les unes s'appuyant sur les autres. Je commencerai par le verset 5. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Vous voyez donc qu'il y a une certaine progression. Et je ne sais pas si nous devons dire que nous devons traverser la vie avec cette progression spécifique, mais elle dit que ce sont des caractéristiques différentes. Et peut-être que vous en avez une, mais vous devez passer à l'étape suivante. La dernière étape mentionnée ici est l'amour. Mais la précédente est l'amitié fraternelle. Nous pouvons donc être bons avec quelqu'un. Nous pouvons faire preuve de bonté envers quelqu'un. Mais cela doit progresser jusqu'à ce que nous aimions vraiment la personne. C'est une chose d'être bon avec quelqu'un. C'en est une autre d'avoir un amour total pour quelqu'un d'autre. Il y a donc une progression. Quand on regarde les choses de cette manière, et commençons par la courtoisie, nous l'apprenons aux enfants. Nous leur enseignons à être courtois. La courtoisie est la façon dont nous agissons poliment en société. Nous sommes courtois envers tous les individus. Nous devrions l'être. Mais ce n'est pas la même chose que d'être bon. Cela ne signifie pas que vous avez fait des efforts pour faire quelque chose de spécial pour cette personne. Vous agissez simplement par courtoisie parce que c'est le protocole qui régit notre comportement. Mais il y a aussi l'étape suivante où nous faisons preuve de bonté envers quelqu'un, souvent un étranger ou un animal, comme je l'ai évoqué au début. Ensuite, nous devons grandir jusqu'à véritablement aimer les autres individus. En pratiquant la courtoisie, nous apprenons à nous préoccuper de ceux qui nous entourent. Cela nous apprend à faire preuve de bonté envers les autres et, finalement, à faire preuve d'amour. Dans Matthieu 7, nous trouvons la règle d'or. Je pense que nous la connaissons tous très bien. Ce sont des choses très élémentaires, mais nous n'y pensons pas toujours de cette manière. Il est facile de parler de bonté, il est facile de parler d'amour, il est facile de parler de se soucier des autres. Mais nous devons apprendre à le mettre en pratique, et c'est pourquoi nous devons méditer sur ces choses. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ainsi, lorsque nous pratiquons ces choses nous-mêmes, en retour, nous pouvons être traités ainsi. Nous devons penser à la manière dont nous aimerions être traités, et c'est ainsi que nous traitons les autres. Mais il y a une nature circulaire à cela. Proverbe 19 nous dit quelque chose d'assez intéressant. Et peut-être qu'en lisant cela, vous vous posez la même question que moi. Proverbe 19, verset 22, déclare « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Ou l'amour bienveillant, comme le dit la marge. Je ne veux pas m'attarder sur les mots hébreux ici, mais la bonté ou l'amour bienveillant. Et ce qui suit dit, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Quand je lis cela, je me pose une question. Quel est le lien entre la première et la dernière moitié du verset? Et c'est souvent ce que l'on trouve dans certains proverbes. Quel est le lien ici? Verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Je ne consulte pas souvent le Sun Sino, qui est un commentaire juif. J'ai cherché un autre commentaire, mais il n'ajoutait rien ou ne disait rien à ce sujet ici sur ce verset. Mais je pense qu'il est intéressant de voir que je ne suis pas la seule personne qui se pose des questions sur le lien entre ces deux parties. Selon le Sun Sino, ce verset est une énigme pour les interprètes. En d'autres termes, les interprètes ont du mal à savoir comment interpréter le sens original de ce verset. Le rendu dans nos traductions courantes, disent-ils, est inacceptable et ne fournit pas de lien entre les deux clauses. La première clause, selon eux, devrait être traduite comme suit. L'attrait d'un homme est sa bonté. En d'autres termes, sa capacité à pratiquer la bienveillance lui confère un attrait pour ses semblables. En d'autres termes, lorsque nous faisons preuve de bonté envers les autres, les gens sont attirés par nous. Et quand je dis attirer, je ne veux pas dire d'une manière romantique, mais plutôt que les gens sont attirés par ceux qui sont gentils. La deuxième clause, dit-il, serait mieux traduite par « mais un pauvre qui n'a pas les moyens de poser un acte de bonté est préférable comme associé à un riche qui a fait une promesse d'aide et ne la tient pas ». Il est donc évident qu'ils traduisent cela dans le sens d'un acte physique de bonté, quelque chose qui peut nécessiter plus que quelques mots gentils, quelque chose qui implique d'aider quelqu'un d'une autre manière. Il est difficile de savoir s'il s'agit là d'une explication complète, mais l'essentiel est qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Et la première partie, comme on dit, et je pense que c'est la meilleure explication que j'ai vue, est que l'attraction d'un homme est sa bonté. En d'autres termes, les gens sont attirés par ceux qui sont bons. Vous pouvez probablement penser à des individus qui ont des qualités qui leur font défaut en ce qui concerne l'énergie, l'intellect ou certains nombres d'autres choses, mais qui sont des gens qui ont bon cœur. Et les gens qui sont bons, nous les aimons. Nous avons tendance à les apprécier. Nous ne devons pas être bons juste pour que les gens nous aiment, mais c'est certainement un sous-produit de la bonté. Remarquez également que le même principe se retrouve dans Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Je pense toujours à une boîte de Wheaties ou de Corn Flakes ou de n'importe quel type de céréales. Vous savez, il y a parfois une note sur la boîte disant qu'il peut y avoir un peu d'espace en haut. Et c'est parce qu'elle est mesurée par le poids. Ainsi, s'il est indiqué qu'il y a une livre de céréales, peu importe l'espace restant dans la boîte, il s'agit censément toujours d'une livre. Mais ici, il est dit, verset 38, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » C'est un peu comme si cette boîte de Wheaties, et on la met là, on la secoue, on la presse, il reste encore un peu d'espace, alors on en verse davantage, on la secoue et on la presse, à nouveau jusqu'à ce qu'elle déborde sur le côté. Ce n'est pas ce que nous trouvons dans les produits que nous achetons aujourd'hui. Mais l'idée ici, c'est que lorsque vous donnez à quelqu'un d'autre, on vous le rendra comme vous donnez, dans une bonne mesure qui déborde. En d'autres termes, cela vous reviendra d'une manière très positive. Verset 38, « On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc, si vous êtes bon, si vous êtes courtois, si vous faites ces choses, cela vous reviendra. Pas par tout le monde, loin de là. Il y a des gens qui vous cracheront au visage, pour ainsi dire, quelle que soit votre bonté. Mais lorsque nous donnons aux autres, cela nous revient. C'est une loi de Dieu. Ce sont les paroles du Christ, et il ne ment pas. Il y a donc un réel avantage à apprendre à être généreux, à apprendre à être aimable et bienveillant envers les autres. À bien des égards, ce sont les petites choses que nous faisons et non les grandes qui sont importantes. Je voulais apporter un livre de Lee Iacocca. Je pense que c'était sa première biographie ou autobiographie. Et il parle beaucoup de son père. Et cet homme, certains d'entre vous ne savent pas qui est Lee Iacocca. Combien d'entre vous ne savent pas qui est Lee Iacocca? Peut-être, d'accord, surtout les jeunes, c'est ce que je m'attendais. Ce n'est pas une offense, si vous ne savez pas qui il était. Je dirais qu'il était un grand nom dans les années 70 ou 80, je ne suis plus certain. Il a travaillé pour la compagnie Ford. Puis il s'est brouillé avec M. Ford Jr., qui se sentait menacé par lui, et il s'est débarrassé de lui. Immédiatement, Chrysler a voulu l'engager. La raison pour laquelle Chrysler voulait l'embaucher était que M. Iacocca était à l'origine de la Mustang et de d'autres voitures très populaires. Chrysler était en difficulté, et il y avait beaucoup de problèmes. Ils l'ont donc engagé, il a travaillé pour eux, je crois, pour $1 la première année ou quelque chose comme ça, pour essayer de les remettre sur les rails. Il a dû s'adresser au gouvernement, en quémandant, pour ainsi dire, en demandant au gouvernement des États-Unis de les renflouer. C'était à l'époque d'une administration républicaine qui n'était pas très favorable à ce type d'intervention gouvernementale, mais il a réussi à l'obtenir. Et malgré un stress que la plupart d'entre nous ne peuvent pas comprendre, il a réussi à obtenir gain de cause. Et si vous conduisez un produit Chrysler aujourd'hui, Jeep, Chrysler, peu importe, c'est grâce à Lee Iacocca. Sinon, Chrysler aurait fait faillite, tout comme Rambler, Studebaker et d'autres constructeurs automobiles qui ont fait faillite au cours des années précédentes. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Il n'y aurait que les deux grands, General Motors, GM et Ford. C'est tout ce que nous aurions eu comme constructeurs automobiles américains. Mais Lee Iacocca venait d'une famille italienne très proche, et il parlait beaucoup de son père. Nous ne pouvons qu'admirer la nature de cette relation familiale. Les Italiens sont historiquement connus pour être très proches et très orientés vers la famille. Tout comme les Chinois l'étaient autrefois, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais les Italiens étaient considérés comme des familles très proches qui restaient unies. Il était issu d'une famille d'immigrants, son père avait un niveau d'éducation de 4e année, mais il a enseigné à Lee Iacocca un grand nombre de qualités. Dans sa première autobiographie, Iacocca raconte qu'il allait de temps en temps au restaurant. Parfois dans un bon restaurant, et la serveuse n'était pas très heureuse. Je suis sûr que nous en avons tous fait l'expérience. En fait, on peut en dire long sur un restaurant en voyant à quel point le personnel est heureux. S'il n'est pas heureux, ce n'est peut-être pas un bon restaurant à fréquenter. Il a raconté que son père donnait toujours le même pourboire à une serveuse mécontente, ce qui était essentiellement lui faire la leçon. Tel que, pourquoi êtes-vous si malheureuse? Nous sommes venus ici pour passer un très bon moment, et vous l'avez gâché en n'étant pas très heureuse. Je suggère que si vous n'êtes pas heureuse ici, vous alliez ailleurs, ou que vous appreniez à être heureuse là où vous êtes. Voilà l'essentiel de ce qu'il disait. Iacocca n'a pas dit si son père leur avait donné l'argent ou non. Il avait simplement souligné qu'il leur avait donné le pourboire d'une conférence à la serveuse. Une autre histoire qui m'a plu est celle de la victoire de Iacocca à l'élection du président de l'Association des étudiants au lycée. Il l'a emporté parce qu'il avait un ami qui savait très bien promouvoir quelqu'un, comment vendre quelqu'un. Il avait perdu une élection lorsqu'il était à l'école primaire. Il a découvert pourquoi. Il était italien, et à l'époque, les Italiens étaient très mal vus, et l'on utilisait beaucoup de termes péjoratifs à leur égard. Il a perdu par deux voix. Et quelqu'un lui a dit, je ne dirai pas comment ils lui ont dit, mais ils l'ont appelé d'un nom plutôt désobligeant et lui ont dit, « Sais-tu compter? » Le fait qu'il y avait 37 élèves dans la classe et 42 votes, ce qui signifiait que quelqu'un avait truqué le scrutin. Il était allé voir l'enseignante, qui lui avait dit, « Eh bien, ne faisons pas de vagues pour l'instant. » Mais cela lui est resté longtemps à travers la gorge. Au lycée, il a gagné le poste de président du corps étudiant. Et il a dit qu'il se sentait très bien, qu'il était très sexy, comme il disait. En fait, il l'a dit un peu différemment. Mais il se sentait plutôt brillant et un peu arrogant. Se sentait meilleur que les autres. Et il a oublié que la façon dont vous traitez les gens fait la différence. Ils ont mené une campagne formidable, mais lorsqu'il s'est agi de gouverner, il a oublié tout ce qui lui avait permis d'arriver au pouvoir. Au second semestre, il a perdu, ce qui a été une expérience plutôt humiliante. Mais comme il l'a dit, il a oublié de serrer la main, de sourire, d'être gentil avec les gens, etc. Et cela lui est revenu en pleine figure. Vous savez, la façon dont nous traitons les autres fait une énorme différence. Et ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons, ce sont les petites choses que nous faisons. Remarquez dans Matthieu 13, verset 31. Je me souviens que M. Armstrong avait l'habitude de souligner ce point très clairement, que Dieu commence par de petites choses. Il parle même dans Luc 12, verset 32, je crois, du petit troupeau. Verset 32 de Luc 12, « Ne crains point, petit troupeau. Dieu commence par le plus petit et fait croître les choses. » Et ce sont les petites choses de la vie qui sont importantes. Dans Matthieu 13, verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Au départ, donc, c'est tout petit. » L'une des sermonnettes que nous avons entendues lors de la fête, je crois que c'était à Kimberley, ou c'était peut-être à Russell, je ne me souviens plus. C'était une très bonne sermonnette. Non, c'était à Kimberley. L'homme a apporté deux pommes de pain au lutrin. L'une d'elles était grosse comme ça. C'était une grosse pomme de pain. Et elles deviennent encore plus grosses. Là où ma sœur vivait, à Julian, en Californie, il y avait un arbre dans le jardin qui produisait des pommes de pain de cette taille. L'autre pomme de pain qu'il a apportée était à peu près de cette taille, à peu près la taille d'un gland, très petite. Il y a donc une grosse pomme de pain et cette petite pomme de pain. La grosse pomme de pain produit un arbre qui n'est pas vraiment bon pour le bois ou autre chose. Il peut être décoratif. Il produit certainement de grosses pommes de pain, mais l'autre, la petite, vient des séquoias. Par exemple, l'arbre général Sherman, le plus grand arbre du monde, a un diamètre de 11,1 mètres à la base. La première branche s'élève à plus de 39,6 mètres dans les airs, et son diamètre est de 1,83 mètres. Il s'agit du plus grand arbre du monde, d'une hauteur de près de 83 mètres. Et pourtant, il provient de la plus petite des pommes de pin, qui contient des graines. La pomme de pin est le moyen par lequel les arbres se propagent. Elle contient des graines. Les gens ne le reconnaissent pas toujours, mais elles contiennent des graines. Ainsi, la plus petite pomme de pin produit un arbre gigantesque, le plus grand arbre du monde, tandis que la plus grosse pomme de pin produit un arbre qui n'a pas beaucoup de valeur économique ou d'utilité. C'est intéressant. Dieu fait les choses différemment de la façon dont l'homme les fait. Et il y a une leçon à en tirer pour nous, à savoir qu'il faut considérer les petites choses. Ce ne sont pas toujours les grandes choses, ce sont les petites choses. Et il a utilisé l'exemple de la graine de moutarde. Puis, dans verset 33 de Matthieu 13, il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Cela commence modestement avec un peu de levain. Nous utilisons cette expression « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Il n'en faut pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour débuter, et le levain se répandra et grandira. Ces paraboles ont certainement une autre intention, mais il est vrai que Dieu commence par de petites choses, et il y a une raison à cela, parce que nous ne devrions jamais mépriser le jour des faibles commencements, comme il est dit dans le livre de Zacharie, au 4e chapitre. Ne méprisez pas le jour des faibles commencements. Remarquons dans Matthieu 25, et cela nous est très familier, mais c'est un point important. Matthieu 25, et je débute au verset 31. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, et il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » En d'autres termes, vous avez fait des choses très bonnes pour moi. En fait, l'accueillir pourrait même aller au-delà de la bonté et s'approcher de l'amour véritable et authentique. Mais remarquez la réaction. Je sais que cela vous est familier, et je ne vous dis rien que vous ne sachiez, mais il dit au verset 37, les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et quand avons-nous donné à manger, ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, ou sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et il y a là une leçon pour nous. Si le Christ était là, nous agirions d'une certaine manière. J'espère que nous agissons de la même manière avec tous les autres êtres humains, car c'est ce que Jésus nous dit ici. La manière dont nous traitons notre prochain est la manière dont nous traitons le Christ, car c'est son caractère que nous devons développer. Ensuite, il parle d'un comportement différent, mais remarquez que lorsque quelqu'un fait ce qu'il faut, c'est tout simplement son mode de vie. Ils ne se rendent pas compte de leurs actions. Ils traitent simplement les autres avec beaucoup de respect, de courtoisie et d'amour. Remarquez ce qu'il est dit dans Jacques. Jacques, chapitre 2, et le verset 1. Jacques 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception et de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Ou n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Vous pouvez lire la suite, mais comment l'appliquer? Comment l'abordons-nous lorsque nous recevons une nouvelle personne ou un membre de passage? Leur portons-nous autant d'attention que nous en réservons à notre meilleur ami? Il n'y a rien de mal à avoir des meilleurs amis, mais est-ce que nous nous enfermons dans nos cliques, nos petits groupes, et oublions ceux qui pourraient être des étrangers? Lorsque nous voyons quelqu'un assis tout seul, allons-nous vers lui et essayons-nous de nous lier d'amitié avec lui? J'espère que nous le faisons, et je sais que nous le faisons dans une large mesure, mais nous devons vraiment penser à ces choses, parce que Dieu pense à la courtoisie que nous avons envers un étranger, à la bonté que nous avons envers un étranger. Parce que lorsque nous traitons cet étranger avec bonté, nous traitons le Christ avec bonté. Parce qu'il est comme ça, c'est son caractère. En tant qu'êtres humains, nous passons par différentes étapes de la vie, et nous devons apprendre des leçons de courtoisie et de bonté à chaque étape que nous traversons. Par exemple, lorsque nous sommes de jeunes enfants, nous apprenons à dire « s'il vous plaît ». Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons dire « s'il vous plaît », sauf que papa et maman nous disent de le faire « s'il vous plaît » et que nous n'obtenons pas de bonbons tant que nous ne l'avons pas fait. C'est un peu comme les chiens de Pavlov. Eh bien, je ne devrais pas utiliser cet exemple. Il faudrait que vous fassiez des recherches à ce sujet un jour. C'est une période très peu glorieuse de l'histoire. Mais en fin de compte, nous apprenons aux enfants à faire certaines choses, même s'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Il s'agit de règles de courtoisie. Vous dites « s'il vous plaît », vous dites « merci ». Au début, ils le font pour obtenir la récompense qu'ils recherchent ou pour faire plaisir à papa ou à maman. Mais ils ne le comprennent pas toujours. Pourtant, nous devons leur apprendre ces choses. Nous devons leur apprendre à dire « excusez-moi » lorsqu'ils marchent devant un adulte. C'est l'une des choses que j'ai remarquées à la fête. Et je le remarque parfois ici. Vous vous tenez assez près d'un autre adulte et un enfant arrive en courant entre les deux, se frayant un chemin. Et je me demande, d'accord, où sont les parents dans un cas comme celui-ci? C'est très important, frères et sœurs, parce que nous avons beaucoup de personnes âgées. Et nous avons des gens qui peuvent tomber. Et cela peut être littéralement fatal. Il y a des exemples célèbres de personnes qui tombent et ne s'en remettent pas. Il y a eu des gens qui se sont cassés la hanche. Et une fois qu'une personne âgée s'est cassée la hanche, il arrive qu'elle se mette à décliner. Il est donc très important d'enseigner à nos enfants la politesse, la courtoisie, et de leur apprendre que si vous voulez passer entre deux adultes, il faut dire « excusez-moi, puis-je passer par ici ?» Il ne s'agit pas de se frayer un chemin, il ne s'agit pas de passer en force ou de contourner. Parfois, c'est peut-être mieux de contourner. Mais je sais que c'est un problème perpétuel. Il remonte à aussi loin que je suis dans l'Église. Nous avons eu des annonces sur le fait que nos enfants ne doivent pas courir à l'Assemblée, parce qu'il y a des personnes plus âgées qui peuvent être gravement blessées. Il est important de leur enseigner ces règles de courtoisie. « Excusez-moi, puis-je passer par ici ?» ou « Excusez-moi, j'ai besoin de passer par ici. » C'est aussi une indication pour nous, qui sommes plus âgés, de nous écarter du chemin afin de ne pas toujours bloquer le passage. Mais nos enfants veulent aller ici et là et partout ailleurs. Est-ce que nous leur apprenons ces choses? J'espère que oui. Nous leur apprenons à partager, n'est-ce pas? Nous leur apprenons à prendre soin des animaux. Quand vous regardez certains des meurtriers de masse et d'autres, vous constatez qu'ils ne s'occupaient pas des petits animaux, ils étaient cruels envers eux. Je ne dis pas que c'est mal de marcher sur une fourmi ou de la tuer, mais cette nature est en nous, n'est-ce pas? Peut-être est-ce en partie dû à la curiosité, peut-être est-ce autre chose, mais comment les gens traitent-ils les petits animaux? Les enfants qui ne traitent jamais bien les petits animaux finissent souvent par traiter tout aussi mal les autres êtres humains plus tard. Il faut leur apprendre ces choses. C'est pourquoi nous enseignons la courtoisie aux petits-enfants. Dans Proverbe 12, verset 10, il est dit, Proverbe 12, verset 10, « Le juste prend soin de son bétail. Le juste prend soin de son animal. Il en prend soin. » Il ne bat pas son chien sans pitié, simplement parce qu'il a aboyé ou il a fait quelque chose de mal. Il traite son animal avec soin et attention. Vous voyez parfois ces publicités à la télévision, où quelqu'un a une ferme de chiots ou autre, et le vend des chiens pour les vendre, et où ils sont attachés et ne sont pas très bien soignés. Non, un homme juste ne devrait pas faire cela, mais nous devons enseigner aux enfants, aux petits-enfants, certaines courtoisies et certaines manières de se comporter. Lorsque nous devenons adolescents, nous commençons à comprendre pourquoi nous sommes censés dire merci et s'il vous plaît, et pourquoi nous devons partager les choses. Mais quand nous parvenons à l'adolescence, nous prenons conscience de nous-mêmes, centrés sur soi-même, et nous pouvons aussi devenir très égocentriques. En fait, les petits-enfants sont égocentriques, mais en tant qu'adolescents, nous pouvons l'être sciemment. Nous devons éviter l'attitude « Hey, regarde-moi ». Dans le film de l'arrière-scène de l'œuvre, nous parlions du « facteur cool », qui consiste en fait à dire « Je suis important ». Nous devons apprendre à penser à l'autre, et cela peut être enseigné, et il faut l'enseigner. Nous devons apprendre aux jeunes à ne pas former des cliques étroites, mais à parler avec tous les autres. Quelqu'un m'a corrigé un jour en me disant « C'est clique » et non pas « clique ». Non, ça vient de C-L-I-Q-U-E, c'est un terme français. Nous l'orthographions parfois comme « clic », avec un K. Je veux bien que vous le prononciez comme vous voulez, mais ne me dites pas comment prononcer « clic ». Quoi qu'il en soit, nous devons nous traiter les uns les autres avec une grande bonté et respect. Si vous voulez savoir ce qui arrive à une personne qui ne fut jamais enseignée à se soucier un tant soit peu de quelqu'un du sexe opposé, vous pouvez retourner à 2 Samuel 13 et lisez l'histoire d'Amnon et de Tamar. Et quelle triste histoire que celle d'un jeune homme qui n'a jamais appris à se soucier d'une autre personne plus que de lui-même. Il ne pensait qu'à lui-même. Et la pauvre Tamar, la façon dont elle a été traitée, et toute l'histoire est d'une cruauté inouïe et incroyable. Il manquait quelque chose à son éducation. Ensuite, lorsque nous devenons adultes, nous avons parfois besoin de continuer à développer la bonté envers les autres. Parfois, comme je l'ai mentionné au début, il est plus facile de faire preuve de bonté à l'égard d'un animal qu'à l'égard de ceux qui nous entourent, d'un mari ou d'une femme. Nous sommes parfois plus cruels envers nos conjoints qu'envers un étranger. Et il y a des raisons à cela, pas de bonnes raisons, mais des explications sur les raisons pour lesquelles nous pouvons être ainsi. Regardons ce qui est dit dans 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Pierre 3, versets 1 à 4. Verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En d'autres termes, ils constatent que leur femme est soudain devenue une meilleure épouse. Et bien sûr, cela va dans les deux sens. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, en d'autres termes, l'un peut être dans l'Église et l'autre non, mais par le comportement de celui qui est entré dans l'Église et le changement qu'il a opéré, l'autre peut être attiré. Au fil des ans, j'ai entendu un certain nombre d'histoires où un conjoint est entré dans l'Église dans une large mesure parce que leur conjoint était très différent, d'une manière positive. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Puis au verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Vous savez, les petites attentions au sein de la famille sont si importantes entre un mari et une femme. Ainsi, même en tant qu'adultes, il ne s'agit pas seulement d'enseigner ces choses à nos enfants. Nous devons nous les enseigner à nous-mêmes. C'est une période où nous devons nous examiner nous-mêmes et être enseignés nous-mêmes de la même manière. Si vous voulez savoir ce qui arrive à un adulte qui n'a jamais appris la bonté, retournez dans Juges 19, versets 27 et 28. Juges 19, versets 27 et 28, qui parle du Lévite et de sa concubine. Elle a été abusée toute la nuit, et il s'est levé le matin, il a ouvert la porte et lui dit, « Lève-toi, c'est le temps de partir. » Finalement, elle est morte après avoir été abusée toute la nuit. La froideur, l'insensibilité de cet individu est carrément choquante. Mais c'était un monde où chacun faisait ce qu'il voulait, comme nous le lisons dans le livre des Juges. En tant que personnes âgées, nous devons également apprendre la bonté dans les moments difficiles. Une fois, je suis allé à la banque à Long Beach, en Californie, pendant la fête. Je devais retirer de l'argent sur mon compte, et j'ai vraiment appris une leçon. Je n'avais pas idée que les personnes âgées pouvaient être aussi charnelles, qu'elles pouvaient se battre pour avoir une place dans la file d'attente. Vous voyez, Long Beach est connue comme une zone de retraite, beaucoup de personnes âgées. Et c'était le jour de la sécurité sociale, le jour où ils recevaient leur chèque. Et ils étaient tous là. Et je n'avais jamais réalisé que les personnes âgées pouvaient être comme ça. Mais les personnes âgées, les personnes de mon âge, manquent parfois de patience. Et il y a des raisons à cela. Parfois, nous ne nous sentons pas bien. Je ne parle pas de moi en ce moment, ni de personne en particulier, mais je sais que lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, il n'est pas toujours facile de faire preuve de courtoisie ou de bonté, c'est ainsi. Mais c'est une chose contre laquelle nous devons lutter. Et c'est la même chose pour un jeune. Nous n'avons pas besoin d'être vieux. Quand on ne se sent pas bien, il est facile de ne pas être bon ou courtois, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut l'être. Parfois, en vieillissant, nous devenons malentendants. Je pense que ma femme et moi en avons fait l'expérience. Elle se plaignait de ma surdité. Maintenant, je me plains de sa surdité. L'un de nous peut donc dire quelque chose, l'autre ne l'entend pas, et nous demandons à nouveau. Il est alors facile de ne pas répondre gentiment, mais de dire en fait, « Imbécile, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? » Nous ne disons jamais cela, mais cela peut être le cas, n'est-ce pas, pour les personnes âgées? Si vous avez côtoyé des personnes âgées, vous savez, il y a des personnes âgées qui se disputent entre elles. Cela commence par de petites choses. Quelqu'un comprend mal quelque chose ou pense que l'autre a dit une chose ou n'a pas entendu, et très vite, les gens se crient par la tête. « Pourquoi n'as-tu pas fait ceci ?» ou « Pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Nous devons également reconnaître notre propension à commettre des erreurs en vieillissant. Il y a un déclin cognitif. Il se produit. Il est donc facile de se défouler sur quelqu'un qui n'a tout simplement pas compris ou qui a oublié. Je te l'avais dit. Désolé, j'ai oublié. Ce sont des choses qui arrivent avec l'âge. Je me souviens d'un exemple merveilleux. Un couple que j'aimais bien et que j'ai connu pendant de nombreuses années. L'une des familles les plus sympathiques que j'ai jamais connues. L'homme était en train de mourir d'un cancer. J'ai entendu l'histoire, je n'en ai pas été témoin. Mais sa femme était là et elle lui frottait doucement la main pour lui dire « Regarde, je suis là, je t'aime, etc. » Mais cela le gênait car sa main était sensible. Il aurait pu s'en prendre à sa femme et lui dire « Ne fais pas ça » ou « Arrête ça » comme le font parfois les gens. Mais au lieu de cela, il a simplement dit, « Oh, Marie, s'il te plaît, ne fais pas ça, ça fait mal. » C'était gentil, c'était gracieux. Cela n'a pas créé un plus grand problème. Il ne l'a pas fait se sentir mal pour avoir fait quelque chose qu'elle pensait être bon ou juste. C'était « Oh non, Marie, s'il te plaît, ne fais pas cela. » Quel exemple merveilleux! Oui, en vieillissant, nous devons aussi apprendre, dans des circonstances éprouvantes et parfois difficiles, à redevenir courtois les uns envers les autres, à être gentils les uns envers les autres. Et heureusement, certaines personnes grandissent dans ce domaine. En vieillissant, ils deviennent plus attentionnés, plus courtois l'un envers l'autre. Mais il y a aussi d'autres couples qui se fâchent de plus en plus l'un contre l'autre. J'ai vu les deux côtés de la médaille. Je pense à des couples plus âgés, où l'on peut voir l'amour qui les anime. Mais cet amour est nourri par la courtoisie, la bonté, les paroles gracieuses. Et puis j'en ai vu d'autres qui se livrent à des joutes verbales sans merci. Même des gens qui sont mariés depuis 50 ou 60 ans. Alors, de quel côté va-t-on se situer? Terminons en nous reportant à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Car il résume bien la situation. Il y a tellement de façons différentes de dire ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui, mais le fait est que la courtoisie et la bonté doivent faire partie de nous. Elles doivent grandir en nous. Nous devons grandir en elles, ne pas les perdre, mais grandir en elles depuis l'enfance jusqu'à la fin de notre vie. Éphésiens 4, verset 31. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et voici le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.